France Inter.
Cher frère, tu m'inquiètes, lui dit-il sur les marches en sortant. Mais c'est toi qui nous inquiète, vient de lui répondre le peintre qui se tient avec sa nouvelle compagne sous la marquise qui coiffe le perron rococo du Grand Hôtel dans les courants d'air en regardant s'éloigner le récemment promu effaré. À l'autre bout de la ville, sur le site de l'ancien port de marchandises, on achève de monter le chapiteau du cirque. Il se met à pleuvoir très fort. Un vent glacé venu de l'est purge les rues de leur odeur. En traversant la ville pour rejoindre les forêts trouées de mines d'ardoises et hérissées dans son lit, le fleuve Calais dans la vallée. Bertrand Belin est ce soir notre invité à l'occasion de la publication de son troisième roman intitulé « Grand carnivore » et à l'occasion de sa nouvelle tournée et de son nouveau disque. Mais tous les soirs, nous commençons en musique. Et ce soir, nous allons commencer avec un vieux monsieur qui reste quand même très jeune quand on le réécoute.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said that the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if you won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
Vous l'aimez, Elvis?
Ah bah encore plus, là, à cet instant précis. Hein. Il nous a fait une drôlement belle caresse au tympan, non?
Bah, ce murmuré chanté, vous l'affectionnez aussi?
Oh, il chante magnifiquement bien quand même, là. Vraiment, c'est très beau. Alors après, quand il se lance dans le deuxième couplet parlé, alors là, c'est vraiment, c'est dégouline, quoi, de plaisir, quoi. Oui, j'aime bien ça, j'aime bien les crooners. Et puis dans ce registre-là, Elvis Presley a une voix d'une très très grande beauté, une très grande douceur, ouais. Et puis aussi capable de mélisme très raffiné. Enfin, voilà, il attend les harmonies, les changements des harmonies avec une patience. Vraiment, on sent le musicien, quoi. J'aime beaucoup ça.
Qu'est-ce qu'une voix, Bertrand Belin ?
Oh, une voix, je sais pas, j'aurais tendance à dire que c'est une somme.
Une somme de quoi ?
Une somme de pensée, une somme de paroles, une somme d'expérience qui affleure à la surface du timbre, laissant imaginer un relief particulier de passé, de présent.
Avez-vous eu déjà plusieurs voix dans votre existence ?
Oui. Oui, j'ai encore, je pense, plusieurs voix. Je pense d'ailleurs qu'on a un peu tous plusieurs voix. Je veux croire que lorsqu'on appelle, par exemple, un ami qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, ou quelqu'un de sa famille, son père, sa mère, on retrouve une voix, peut-être que ça nous échappe, mais un peu différente de celle qu'on avait 5 minutes avant, en parlant à son collègue de travail, ou à sa compagne, ou son compagnon. Et là, tout à coup, on joue une autre musique, voilà, parce que c'est une musique qui appartient, qui est liée à certains souvenirs, à certains types de relations. Je pense qu'il y a une voix qui va avec des types de relations, quand même, j'imagine, oui.
Vous vous souvenez quand votre voix a mué ?
Muet, oh, je me rappelle pas trop, parce que j'ai retardé longtemps sa mue.
On peut le faire volontairement?
Bah, quand on chante, oui. Peut-être c'est difficile en parlant, mais moi, comme j'ai commencé à chanter à la fin de l'adolescence, j'avais comme modèle de chanson, surtout, les disques que j'écoutais, mais bien sûr, mais aussi la voix de ma mère, qui chantait quelques chansons des yéyés ou des chansons de réalistes d'avant-guerre. Avec une voix très belle, elle chantait très juste, elle avait un très très beau timbre. Un timbre assez proche de celui que j'allais avoir, moi, quand j'ai commencé à chanter. Et puis, du coup, je chantais assez aigu. Ça s'entend dans mon premier disque, d'ailleurs. Je chante encore aigu à ce moment-là. Je dirais pas que c'est ma voix, c'est une voix de référence que j'avais. Petit à petit, de là-haut, elle est toute descendue un petit peu. Et puis, progressivement, je chantais avec ma voix, quoi.
On dit une voix de tête, ça veut dire quoi pour vous ?
Ça veut pas dire la même chose pour un chanteur lyrique que pour un chanteur de pop ou de chansons populaires comme moi. Parce que une voix de tête, ça peut être un des registres possibles du chant, hein. Mais il y a beaucoup de gens pour lesquels la voix de tête est la seule voix envisageable. Moi, je pense que je chante un peu de la tête comme ça, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça dit quelque chose, en tout cas, d'une certaine forme de pudeur, peut-être. C'est difficile d'aller chercher, là, en bas du ventre, chanter, en offrant, en donnant beaucoup. Voilà, cet aspect physique, en tout cas, du chant, n'est pas donné à tout le monde, quoi. Et puis, on est plus ou moins préparé aux décibels. Hein, c'est quelque chose, les décibels. Crier, crier, savoir crier, vous savez crier. Moi, je sais pas crier, par exemple. Si je criais, je pense que je me ferais peur, peut-être, mais ça fait bien longtemps que j'ai pas crié. Enfin, produit un son puissant sortant de la bouche, quoi. En termes de volume, quoi.
Mais pourtant, dans votre écriture, et ce troisième roman en atteste, Grand Carnivore, vous ne parlez que de la peur. Donc, j'imagine que vous l'avez subi, peut-être, cette peur, vous l'avez observée. Et quand on a peur, on crie.
On crie ou on se tapit et on essaye de même pas faire le bruit de sa propre respiration. Hein. C'est plutôt dans ce genre d'option que je me suis trouvé, ouais, on dirait.
Donc le silence face à la peur.
Ouais, un silence, ouais, un silence, une disparition peut-être même, un camouflage.
Vous êtes plutôt un observateur de la vie qu'un acteur qui se coltine au réel.
Non, je pense pas, non, je pense au contraire que je me suis beaucoup coltiné au réel, ouais, je me coltine encore, ouais. Non, je suis pas du tout un observateur, encore moins un contemplateur, mais bon, je bénéficie quand même d'un peu de temps c'est moins une observation qu'une permanente interrogation, quoi. J'ai pas trop le temps d'observer, j'ai pas le temps parce que ça se transforme immédiatement, les observations se transforment immédiatement en investigation, si on veut, quoi. Des fois, des investigations très touffues et qui sont assez désordonnées, mais enfin, c'est comme ça que je respire le monde, quoi.
La voix se module-t-elle selon le vocabulaire et l'appartenance professionnelle ?
Indéniablement.
Vous avez déjà eu plusieurs vies ? Alors que vous êtes très jeune, Bertrand Belin.
Oui, je suis très jeune. Mais à mon âge, il y a beaucoup de gens qui sont déjà disparus. J'ai 48 ans. C'est sûr que c'est la moitié de bah, je vous laisse faire le calcul, hein, parce que voilà, je suis pris de court.
Ah bah non,
voilà,
mais maintenant, les centenaires sont légion. Hein.
Oui, bah oui, mais on apprend à notre grand désarroi que peut-être il y aurait un peu de triche de ce côté-là. Alors il y a de la triche partout maintenant. On ne peut plus se vouer à rien.
Alors 48 ans et combien de vies?
Oh, jusqu'à présent, combien de vies, je saurais pas dire. Je pense quand même que c'en est qu'une, hein, dans le fond. Mais oui, c'est qu'une vie. Mais bon, c'est vrai que la nature de ce parcours m'a fait traverser différentes strates, un petit peu comme ça, différents milieux, quoi, de différentes natures d'être au monde. J'étais enfant dans un milieu de pêcheurs et de gens très assez brutaux, qu'on va dire, qui savaient des choses, hein, qui connaissaient des choses, qui avaient des connaissances à transmettre, mais qui avaient aussi une approche. Alors là, en matière de être dans la vie au lieu de l'observer, là, on peut pas faire mieux. C'est vraiment des gens qui étaient dans un incendie permanent, même, je dirais. Donc dans lequel j'étais moi aussi, j'avais aussi ma petite place, quoi. Et puis donc là, c'était vraiment la vie dans ce qu'elle peut avoir de plus trivial, quoi, avec ses maladies de peau et voilà le direct, quoi, le feu, la décharge publique, la chasse, le vol, enfin tous ces trucs, les poireaux, les poules, enfin vous voyez. Et puis après, en grandissant, bon, bah, j'ai découvert d'autres mondes. J'ai découvert les livres, notamment, qui sont ouverts comme un territoire d'une vastitude que j'avais pas du tout envisagé, quoi. Voilà, c'était encore un espace nouveau, puis surtout, aussi, l'exploration aussi de nouveaux types d'expressions. Et puis, je vivais dans un coin au bord de la mer avec un environnement maritime qui suggère un certain type de vocabulaire propre au métier et aux pratiques qu'on y trouve, et puis aussi un langage témoignant de son appartenance sociale aussi, hein, avec une certaine fierté qu'on emploie pour se faire mécomprendre des gens qui appartiennent pas à ce milieu, quoi, pas pour cette seule raison, mais aussi pour cette raison. Il y a aussi la langue qui mute, qui bouge, hein, comme on le voit tout le temps, avec des listes d'ailleurs. C'est-à-dire que nous, entre adolescents, on avait aussi notre vocabulaire. Puis à 20 ans, en arrivant à Paris, à 18 ans, je suis arrivé à Paris, j'ai découvert encore d'autres ressources. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, où encore une fois, il est question encore d'autres choses de ce point de vue-là, à vos côtés. Voilà.
Quand avez-vous passé votre CAP d'électricien ?
87. Je l'ai eu du premier coup.
En cas d'incendie ou de problème électrique, ouais, on peut vous appeler.
Oui, en cas d'incendie.
Maintenant, vous semez l'orage dans les cœurs des jeunes filles. Au fond, c'est le même métier que vous pratiquez aujourd'hui.
En cas d'incendie ou en besoin d'incendie, hein, parce que là, je peux aussi créer des incendies avec ce métier, hein, parce que je ne l'ai pas pratiqué beaucoup quand même. Je vous déconseille de me confier un chantier quand même.
Bah, les incendies, vous les allumez autrement maintenant.
Oui. Enfin, oui, je ne sais pas, mais en tout cas, je souffle bien sur des braises, mais bon. Je ne sais pas toujours dans quel but.
Ben dans le but peut-être de nous émouvoir, de nous attendrir, de nous faire partir en voyage.
Oui, c'est ça.
Peut-être aussi de nous faire réfléchir, d'ailleurs.
Oui, c'est ça. C'est ce que je me souhaite aussi, moi. Je suis aussi un destinataire de ces chansons et de ces lignes que j'écris, de ces pages que j'écris. J'en suis aussi un destinataire. C'est pour mon bien aussi que je fais ça, hein. Pour mieux vivre, quoi. Donc, alors, c'est bien sûr, évidemment, j'ai bien conscience que ça peut participer à voilà, ça peut se partager, parce que moi-même, lecteur, j'ai lu des livres, écouté des musiques, vu des films qui m'ont aidé par moments. Donc, je sais que ça peut avoir ces vertus-là.
On est dans un tout petit studio, il n'est pas fait pour la musique, mais cependant, vous avez apporté votre guitare, ça serait quand même dommage de ne pas vous entendre avec votre guitare. Et c'est incroyable ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que vous allez chanter une chanson, je sais pas laquelle, mais vous venez de nous dire, et c'est très rare, je crois, pour des chanteuses ou des chanteurs, de dire qu'ils sont aussi les destinataires de ce qu'ils ont composé. Est-ce à dire que quand vous allez interpréter cette chanson que nous allons découvrir ensemble avec les auditeurs, vous allez peut-être la comprendre autrement. Et vous allez être aussi le récipiendaire.
Oui, c'est possible. Oui, il y a des chansons que dont je découvre certains aspects, certaines saveurs, parfois des mois, des années plus tard. Oui, ça arrive, oui, ça arrive. Et puis, en chantant, c'est vrai que chanter, tout le monde peut en faire l'expérience. Chanter, c'est comme rire, hein. Ça fait du bien, quoi. C'est bon.
Faut savoir chanter.
C'est bon pour le corps. Faut savoir chanter ou alors être entouré d'amis qui sont bienveillants et qui vous laissent chanter malgré tout, ou alors chanter seul. Tout est possible. Devant ton visage, mortel pour moi. Devant ton visage, mortel pour moi. Quelle voix avoir, quel mot dire. Au bout de tant de temps, car le temps existe. Comment, quoi faire, quoi. Comment, quoi, devant toi. Au coin de cette rue, sous les lilas, je tombe sur toi, sur nous, j'avale, je respire. Comment te dire, comment te cacher, ça doit se voir, tu dois le sentir. Ta bouche aussi, mortelle pour moi. Ta bouche aussi, mortelle pour moi. Au goût de lait, de bois, de terre et de lys, de terre et de lys. Au bout de tant de temps, car le temps existe. Comment, quoi faire, quoi. Comment, quoi, devant toi. Au coin de cette rue, sous ces lilas, je tombe sur toi, sur nous. Car c'est bien toi, c'est ton rire, sous ces lilas. Comment te cacher, comment me cacher, comment se cacher.
Est-ce que je place la poésie? Eh bien, comme je l'entends, il est possible qu'elle se trouve ailleurs que dans les recueils poétiques, peut-être dans certains textes plus modestes ou plus acharnés, enfin, dans des textes de recherche, peut-être. Et alors, qu'est-ce qui distingue les poètes? C'est qu'évidemment, leur moyen d'expression est spécial. Il s'agit des mots. Alors je crois aussi, et je le crois pour tous les arts, qu'il est impossible de faire quoi que ce soit de valable si l'on n'est pas aussi sensible à son moyen d'expression commande extérieure, c'est-à-dire qu'à l'objet de votre émotion. C'est-à-dire qu'il faut considérer, quand un écrivain ou un poète, le monde verbal, le monde des mots, n'est-ce pas, si vous voulez le dictionnaire, comme un monde extérieur aussi, enfin quelque chose d'épais, de, comment dirais-je, comme une matière à modeler, comme une chose qui est émouvante aussi par elle-même. Alors, je pense que si l'on est doué de ces deux sensibilités et d'un désir violent d'expression, bien sûr, ça c'est le tempérament et ça ne se commande pas, eh bien, on est peut-être capable de faire œuvre valable, puisqu'il s'agit qu'à l'intérieur du monde des mots, votre texte existe comme les objets extérieurs existent dans le monde extérieur.
Nous venons de vous entendre interpréter une de vos chansons, Bertrand Belin, et puis tout de suite après, c'était Francis Ponge qui essayait de définir ce que c'est qu'un poète. C'est une archivina de 1958. Dans cette chanson que vous avez interprétée, il y a des mots qui reviennent. Il y a des mots très simples, la terre, le lilas, le lys, mortel, etc. Et dans vos livres, et particulièrement dans le dernier, Grand Carnivore, mais dans les deux précédents aussi, l'importance donnée à des mots, d'ailleurs le mot lait, il revient dans l'avant-dernier, sont constitutifs d'une matière de mots que vous utilisez aussi bien dans votre écriture romanesque que dans la manière dont vous composez vos chansons. Qu'est-ce que la langue pour vous et comment utilisez-vous les mots ?
Bien, la langue, je dirais, pour moi, elle a plusieurs registres, bien sûr, d'utilité, quoi. Il y a la langue que nous échangeons, par laquelle nous échangeons des informations, qui est la langue de fraternité, pour s'informer des moyens de subsister, quoi. La langue qui dit « attention derrière toi ». Ça, c'est une langue importante, la langue qui prévient, la langue de la bienveillante, la langue de l'entraide, quoi. C'est la vieille langue, celle-ci, c'est la très ancienne langue. Et puis, il y a aussi la langue qui, dont on pressent un peu une forme d'autonomie, dont on se demande si c'est nous, si on est nous, ou si le langage, c'est nous, on ne sait pas trop. Comme s'il y a une forme d'autonomie du langage et que finalement, ce qui est en train de se prononcer là, pendant que nous parlons, si ça serait pas ça, être finalement. Si c'est pas cette musique, cette langue et ces mots qui est le véritable enjeu de notre existence, si c'est pas ça qui veut survivre, si c'est pas ça qui nous conduit à survivre, quoi, c'est peut-être ça finalement le langage. Voilà. Et puis il y a le langage des collectionneurs, celui qu'on trouve dans les livres de poésie, dans les romans. Voilà. Pour moi, il y a quelque chose à voir avec la collection. Je pense que les gens qui s'intéressent à la langue sont des gens qui supposent une forme d'autonomie à la langue et qui, par conséquent, essayent d'en déceler un petit peu les modalités, quoi. Savoir c'est quoi, parce que ça bouge. Hein. Quand on approche et qu'on touche, on voit bien que ça bouge le langage, les mots, ça bouge, c'est vivant. Il y a quelque chose là-dedans qui est passionnant. En tout cas, je trouve que c'est le langage, c'est la voix, les mots, c'est la voie par laquelle il me semble normal de s'avancer par instinct dès lors qu'on veut des solutions ou une forme d'élucidation à l'effroi d'être au monde quand il se présente, quoi.
Vous avez une matière de langue, un corpus de langue très particulier et très différent à chaque publication. Votre troisième livre sort ces jours-ci, s'appelle Grand Carnivore. Il ne ressemble en rien ni à requin, ni à littoral. Et pourtant, à chaque fois, en tout cas pour nous, vos lecteurs et vos lectrices, il se fait que vous proposez des images grâce à votre socle de mots qui nous reste en mémoire. Et cette mémoire, nous l'avons grâce à votre possibilité de mettre en mots peut-être des images mentales que vous réussissez à traduire grâce à votre vocabulaire. Vous avez parlé des dictionnaires. Dans chacun de vos livres, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quand même des mots assez précieux. Il faut aller chercher dans le dictionnaire la signification de ces mots. Donc est-ce que vous allez puiser dans différentes sources, y compris les dictionnaires, des mots, ou est-ce que les mots vous viennent comme ça, par une inspiration, par bloc, Bertrand Belin ?
Non, je vais pas puiser dans le dictionnaire, mais même si c'est un ouvrage que je consulte souvent depuis l'enfance, j'ai toujours été fasciné par les dictionnaires. Parfois même lorsque j'ai besoin d'un outil, d'un idiome pour expliciter, à faire avancer une explication ou une pensée, bon, bah, alors, il y en a qui me viennent, je cherche pas dans le dictionnaire, je cherche parmi ce dont je peux me souvenir. Parfois, il en arrive, qui sont peut-être plus rutilants que d'autres, et dont je suis pas absolument certain de connaître vraiment le sens. Donc, je vais aller à ce moment-là, peut-être vérifier quand même avant de l'utiliser, mais c'est quand même assez rare, hein. Mais ça, c'est des cas de figure qui se présentent, ouais. Maintenant, il y a aussi tout un vocabulaire qui est plutôt un vocabulaire régional ou un vocabulaire de métier, des termes connus seulement dans un coin, par exemple pour désigner certains actes de travail sur la pêche, on parle pas de la même chose dans le Morbihan que dans les Côtes d'Armor, quoi. Et quand on arrive en Méditerranée, les poissons portent plus le même nom, quoi. C'est quand même assez fou, ça. C'est donc voilà, il y a aussi un peu cette terminologie bien que je n'ignore pas que ces mots soient pas connus de tous, j'aime bien les plonger quand même parce que leur opacité troue le texte et vient créer un effet d'exotisme, en fait, que je recherche, quoi.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Bertrand Belin, Malik Djoudi, Tempérament.
Chaisine en bleu jean. J'aime la vie, j'aime les gens, tant que mon tempérament se désiste des autres troubles entêtantes, tant que mon tempérament.
Merci pour ce chanteur que personnellement je découvre grâce à vous, Bertrand Belin. Pourquoi ce choix ?
J'aime énormément Malik Djoudi et c'est toutes les chansons qu'il a composées et produites jusqu'à présent. Celle-ci en particulier, mais bien d'autres. Je l'aime parce que j'entends, je sais qu'il a confiance dans le pouvoir de la musique. de prendre le relais de ce qu'il a à dire, des quelques mots qui sont disposés comme ça dans ses chansons, qui ouvrent des perspectives vastes, avec des mots très simples et peu de mots. Et la musique, dans ses architectures, dans ses reliefs, dans ses effondrements, apporte des informations dramatiques qui suffisent largement, en s'adjoignant les pouvoirs des mots, à faire ce que réussit une chanson, c'est-à-dire nous émouvoir dans le meilleur des cas, quoi.
Il y a une tradition littéraire en France qui a eu beaucoup de succès dans les années 40, 50, 60, d'écrivains qui étaient aussi des poètes et qui écrivaient aussi bien des textes pour des chansons que des poèmes. J'ai l'impression qu'aujourd'hui vous relevez ce défi et que vous vous inscrivez dans cette tradition littéraire.
Je ne sais pas quel personnage vous faites référence, peut-être... Pensez à Aragon, des gens comme ça.
Aragon, Prévert.
Prévert, oui, Prévert.
La proximité des mots qui peut faire ritournelle,
oui.
Émouvoir dans une chanson.
Je suis au tout début d'un intérêt tout à fait particulier pour cette recherche, oui, en particulier du côté de Prévert, oui, c'est vrai. C'est-à-dire le pouvoir des mots simples, notamment, quoi, chez Prévert, il y a cette dimension comme ça. Ce véhicule un peu d'un caractère enfantin qui permet de dire énormément de choses. Et à ce titre-là, une chanson de mon dernier album, ce qui s'appelle Sur le cul, je pense en provenance un petit peu de cette influence. Ouais. C'est assez inattendu, mais c'est vrai, la musique est assez plutôt anglo-saxonne, une espèce de pseudo-disco qui vient plutôt d'un artiste que j'admire qui s'appelle Bill Callahan. Mais dans l'ensemble, cette espèce de ritournelle enfantine, charriant des sujets graves... C'est très Prévert. Et d'ailleurs, je pense aussi à Doineau, d'ailleurs, avec cette chanson, parce qu'il s'agit de s'arrêter sur une séquence, une scène de rue, quoi, une scène de rue. Et puis, ne pas hésiter au moment de d'y porter un discours, finalement, où l'esthétique a un rôle important aussi, puisque nous sommes des artistes, on peut dire. À ce titre-là, ouais, il y a une filiation, hein, qui se dessine, mais je la découvre. Et il y a un grand maître de ça, je pense, c'est Philippe Catherine.
Ben, les mots sont des billes avec lui, et puis tout d'un coup, il joue avec, il les caresse, il les fait jongler dans l'espace, et dans l'oreille, et dans le tympan, et dans nos cerveaux.
Il les fait volter devant nous, il les prononce dans des espaces inattendus. Et les mots ont des lieux aussi. Hein. Les mots ont des lieux, un lieu, un mot. Hein. Le même mot dans un autre lieu, c'est un autre mot, c'est un autre lieu, quoi. Ça résonne différemment.
Philippe Catherine est un mec vraiment génial, mais il fait des livres, mais c'est plutôt des légendes pour des illustrations. Il n'a pas franchi le cap d'écrire des romans. Or, vous en êtes au troisième. Et ce sont des romans extrêmement architecturés. Ce sont des romans avec des imaginaires très distincts, on le disait tout à l'heure. Chaque livre... pour être signé de quelqu'un d'autre que vous. C'est vraiment incroyable à quel point vous savez changer d'univers, de vocabulaire, de tension d'écriture, de registre d'écriture. Mais il y a une dimension qui est à la fois archi-réaliste, mais aussi extrêmement fantastique dans chacun de vos livres, et plus particulièrement dans le dernier. Je voudrais vous proposer d'écouter la voix de Jorge-Luis Borges, à propos de l'écriture de ces histoires fantastiques, c'est une archive INA du 10 décembre 1979.
Je ne vois pas mes histoires comme fantastiques. Quand je les écris, je les vois comme nécessaires, comme inévitables. Je ne peux faire autrement que les écrire. Et les écrire d'une certaine façon. En général, je commence par la forme elle-même, que j'entrevois comme de loin. Et si j'écris une nouvelle, par exemple, alors je vois toujours très clairement le commencement et la fin, mais la zone entre le commencement et la fin, ça, il faut que je la découvre, que je l'invente, que je la fabrique. Je commence en général comme ça, par entrevoir quelque chose. Alors quand je l'entrevois, je sais, bien, il y a cette possibilité-là. Cette possibilité-là, au commencement, je ne sais pas si cela sera un poème ou un récit. Puis, après quelques temps de regarder, je découvre, non, ce n'est pas un poème, c'est un récit, ce sera un récit en prose. Mais tout cela vient après. Je commence par entrevoir une forme. Comme si l'on voyait une île. Comme on ne voyait que les deux, par exemple, que l'Est et l'Ouest. tout ce qu'il y a entre eux, tout ça, il faut le peupler.
Nous venons d'entendre Jorge Luis Borges et je vous vois hocher de la tête en l'écoutant, Bertrand Belin.
Bah, j'ai beaucoup de plaisir à l'entendre et puis l'entendre parler en français. Il devait parler beaucoup de langues, Borges. Oui, puis j'ai lu beaucoup de ses livres, j'admire beaucoup cet écrivain. Je comprends très bien, je dois dire, je suis simplement gêné de m'inscrire dans une filiation parce que c'est un immense écrivain, mais je comprends très bien cette idée d'avoir derrière son front une forme idéale, quelque chose qui s'est déjà formé, qui est assez difficile à expliciter ou à dessiner, mais qui pourrait presque être dessiné aussi, qui va devoir faire l'objet d'un travail plus ou moins acharné pour advenir. Mais comme s'il était déjà là, quoi. Parce que son début et sa fin de livre, là, dont il parle, c'est comme si c'était des petites vertèbres qui dépassaient du sol et il fallait nettoyer la terre autour pour découvrir un squelette entier, quoi. Ou un trésor entier, quoi. Mais enfin, il est absolument certain qu'il s'y trouve. Hein. C'est absolument indéniable. Donc cette sorte de prescience ou de foi, comme ça, dans la présence d'un objet qui pourra peut-être être plus ou moins grand, comme il le dit, une nouvelle, un roman, un récit, une encyclopédie. Moi, je vis les choses aussi comme ça, quoi, avec le résultat qui est le mien, quoi. Mais je vis les choses comme ça. Et c'est pourquoi, peut-être, il y a cette variété de registres de langues peut-être dans ces livres, parce que j'ai l'impression que ces formes derrière le front dont on parle et ces objectifs à atteindre qui sont mouvants, protéiformes, mais bien présents, avec toujours un poids à peu près qu'on peut évaluer, bon, ben, ces formes, elles arrivent avec leur langue, un peu comme si on était traversé par des voies, quoi. Et puis il y a les registres de langage dont on parlait tout à l'heure, littoral, ça se passe au bord de l'eau, dans un milieu de pêcheurs, qui est un milieu assez taiseux, celui que j'ai connu, donc économie de mots, des mots simples, un vocabulaire de pêche, l'usage de la répétition, qui me vient aussi d'influences littéraires aussi, hein, Jon Foss notamment, dont j'ai beaucoup aimé beaucoup de livres, certains d'ailleurs se déroulant aussi au bord de mer. Il y a des influences multiples, il y a une certaine foi aussi dans le pouvoir de la répétition, de la scansion, hein, produire des effets parfois nerveux, pas toujours des émotions, mais en tout cas de l'électricité chez le lecteur. Et puis, le dernier livre, donc là, on a affaire à la fois à un valet de cage qui fait partie de ce qu'on pourrait appeler le bas de l'échelle sociale, qui s'occupe des fauves, qui a un métier avec un savoir très puissant, mais enfin, on voit bien qu'il occupe une place dont la société se fout, quoi. Et puis, des capitaines d'industrie qui gravitent dans des milieux de collusion politique et tout, qui ont du coup un pouvoir d'élocution et une parole qui, justement, qui permet l'obtention de ce pouvoir, quoi.
Là aussi, le pouvoir des mots est de répéter certains mots, comme celui de valet de cage, qui va être une sorte de ritournelle à l'intérieur de votre dernier livre, Grand Carnivore. À avoir avec, et ça c'est dans tous les livres, mais encore plus prononcé dans le dernier Grand Carnivore, avec la justice sociale, plutôt avec l'injustice sociale, que vous savez très bien mettre en scène, à l'intérieur là d'une fratrie, un frère qui est arrivé, un autre qui croit être arrivé. Le frère est arrivé socialement, il a un statut social, l'autre il est arrivé intellectuellement, amoureusement, il fait corps avec lui-même, puisque c'est un artiste et c'est un peintre. Et puis ce cirque qui arrive dans une ville avec à chaque fois chez vous, Bertrand Belin, cette espèce de précision dans ces images mentales que vous nous proposez. Donc, il y a des grands hangars, il y a un labyrinthe, il y a des fauves qui s'échappent parce qu'un valet de cage n'a pas dû faire le travail qu'il aurait dû faire et les fauves se sont enfuis. Et puis, il y a le reste de la ville endormie. Et on se dit, qui est dans le labyrinthe ? Qui va rester dans le labyrinthe et qui possède la clé du labyrinthe ?
Oui, alors c'est le labyrinthe, bien sûr, c'est pas choisi ce mot au hasard, mais qui désigne, qui est le nom que la population d'une ville a donné à un certain quartier.
Où on s'amuse, où on boit, où on fait la fête.
Où on s'amuse, on boit, où on fait la fête, mais où on dort l'hiver dans le froid, et où on se nourrit mal, et où on a des maladies de peau, et où on ne se soigne pas les dents, et où il arrive des bagarres. Et ça a valeur de labyrinthe, simplement parce que c'est difficile d'en sortir. tout simplement. Et on peut considérer ce labyrinthe comme d'ailleurs il faut le considérer comme ça. C'est une émanation, une image, une représentation de cette impossibilité là, de cet implacable rez-de-chaussée de l'ascenseur social, quoi. Voilà, où on a appuyé sur le bouton depuis longtemps, quoi. Mais apparemment, il n'y a pas grand-chose qui se passe, quoi, ou qui se passera. C'est comme un labyrinthe dans le sens où Borges, d'ailleurs, appelait le désert sud-américain un labyrinthe horizontal.
Dans cette émission, on demande à quelqu'un qui connaît bien le travail de l'invité de s'exprimer à son sujet. Évidemment, ce n'est pas très original et nous nous en excusons auprès de vous, Bertrand Belin. Mais nous avons pensé à Rodolphe Burger.
Bah, bien
écoutez
sûr que c'est original.
Ce qu'il dit de vous.
Il trace une tangente totalement inédite dans le champ, évidemment, de la chanson française, qu'on appelle comme ça, enfin, mais aussi de la littérature maintenant. Et le fait que ça se déploie simultanément dans ces deux terrains est totalement inédit. Puis il faudra ajouter d'autres terrains. Il y a la comédie, là ça je connais un peu moins, ce côté de Bertrand, le côté acteur, mais il y a aussi le danseur maintenant. D'ailleurs il y a un mot que Bertrand emploie, que j'aime beaucoup, pour qualifier quelqu'un, pour désigner ce que quelqu'un a en propre. Il parle de la danse de quelqu'un. Je me souviens de l'avoir entendu dire, ah oui lui j'aime bien sa danse. Ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire ça. Sa silhouette, sa démarche, son mouvement, ce qui dégage, son aura, enfin ça veut dire tout ça à la fois. Donc voilà, de Bertrand, j'admire infiniment la danse. Et alors j'ai eu de multiples occasions de le côtoyer, de l'inviter. Dans mon festival à Sainte-Marie, il a laissé un souvenir magnifique. Il a fait un concert dans une petite chapelle. Et puis bien des fois, jusqu'à récemment, à la Maison de la Poésie, où on a pu ensemble danser notre salut à Paulo Tchaïkovski-Laurence. Si j'avais une question à lui poser, enfin, ce serait plutôt une curiosité. Bon, c'est une chose dont on parlera peut-être quand on se reverra, parce que ça m'intrigue énormément, évidemment, je sais pas si on peut dire une double vocation, parce que, justement, je ne sais pas si ça a été une vocation, l'écriture chez lui, enfin, je parle de l'écriture, cette fois, des livres. Est-ce que c'est pas l'écriture en général? Est-ce que c'est pas écrire par tous les moyens qui était sa vocation? Je ne sais pas. J'aimerais parler de ça avec lui.
Alors, est-ce que c'était une vocation d'écrire? J'aime beaucoup le mot qu'emploie Rodolphe Burger à votre égard. Bertrand Belin dit que vous tracez une tangente.
Oui, c'est vrai, j'ai entendu ça. Oui. C'est sa façon de souligner ce qu'il perçoit comme une singularité. Et c'est vrai que l'oblique et la tangente, voilà, c'est des trajectoires qui ne sont ni hors ni dedans. Ça me touche beaucoup de l'entendre, Rodolphe, parce que...
Mais c'est vrai que vous dansez sur scène de plus en plus.
J'aime beaucoup danser parce que ça me surprend, ça me fait découvrir que j'ai un corps, et aussi disgracieux soit-il, au moment de danser... il s'en dégage quelque chose d'amusant, qui est une forme d'idiotie. Et c'est autant de paroles qu'on n'ose pas prononcer, hein. Danser mal, c'est comme produire des gros mots, quoi, dire des gros mots, dire des saloperies, pourquoi pas. Mais quand on danse des saloperies, personne ne va nous taper sur les doigts. On est une chose curieuse. Mais en tout cas, ça déleste un petit peu de se lancer dans la danse. Et je pense que le corps a envie de faire plein d'expériences. Hein. Il a envie de faire, quand il est jaloux de voir des plongeurs olympiques, il est jaloux de voir des véliplanchistes, il est jaloux de voir des astronautes. Moi, mon corps, il est jaloux de tout ça. Il est jaloux des randonneurs, il est jaloux des footballeurs, il est jaloux des danseurs. Donc de temps en temps, ça s'exprime. Et comment ça s'exprime? Par la danse, quoi. C'est une danse qui témoigne une certaine frustration du point de vue des capacités qu'on devine dans les muscles, hein, parce que c'est solide, hein, les os, les muscles et tout, c'est incroyable ce qu'on peut faire avec. Mais moi je marche beaucoup, hein, je prends le métro tous les jours, je crapahute, mais je dois dire que je fais un emploi trop modeste peut-être de ces merveilles. Je voulais revenir à propos de Rodolphe Burger. Je voulais simplement dire, bien sûr, ça me touche énormément, son affection, son amitié, et le regard qu'il porte sur mon travail aussi me touche énormément. Je veux simplement rappeler que qu'il fait partie des gens qui rendent possible tout ça, hein, parce que moi c'est un musicien que j'admire depuis de nombreuses années. J'ai mis longtemps à oser l'approcher, il m'intimidait beaucoup, et puis je l'ai vu souvent en concert. Donc c'est quelqu'un aussi qui a un corps aussi qui me touche aussi beaucoup, et voilà. Donc ouais, c'est un modèle pour moi, je lui ai déjà dit d'ailleurs, mais vous savez ce qu'on fait avec les modèles, on cache qu'on essaye de leur ressembler, on trouve sa propre voie, quoi. Mais enfin voilà. Et concernant la question de la vocation, je sais pas si on peut parler de vocation, mais en tout cas de le pressentiment qu'il y a une voie de sauvetage dans le larynx et dans l'articulation, dans la grammaire. Ça me paraît une évidence. Ouais, ça me paraît une évidence. C'est aussi vrai que j'en étais éloigné lorsque j'étais scolarisé, quoi.
Je voudrais parler de la forme de vos livres. Je crois que vous parlez et vous partez de la forme. Chaque livre est une interrogation sur le statut de l'écriture, même si vos livres racontent des histoires à partir d'injustices sociales, de géographie socio-économique, de réflexions sur notre société contemporaine. Et vos livres, tous les trois, mais le troisième, celui-ci, La Grand Carnivore, a une teinte mélancolique, avec une réflexion sur la mort, comme si c'est l'oxygène manqué de tous côtés.
Oui, c'est une des vapeurs toxiques du livre, enfin c'est une des parfums capiteux en tout cas du livre, parce que ce livre a été écrit dans une période où j'éprouvais moi-même une angoisse très puissante, très forte, qui était liée à des événements personnels, mais aussi à ce qui a touché tout le monde, c'est-à-dire une vie en ville qui était devenue très 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 angoissante, avec les événements dramatiques qui se sont déroulés dans la capitale et dans d'autres villes de France, et bien sûr ailleurs, dans d'autres pays bien sûr, mais également ici, nous laissant interdits, hein, et en état de choc un peu. Moi j'ai ressenti un état de choc quand même, notamment les événements arrivés à Charlie Hebdo, bien sûr, mais également au Bataclan et dans le quartier, et tous les autres événements. Bon, bah, c'est paralysant, quoi. Il faut continuer à produire une réflexion, continuer à se préparer à construire et reconstruire, mais le saisissement était total pour moi, qui était par ailleurs fragilisé à cette période par des événements personnels. J'avais un état de nerfs qui, je pense, se retrouve dans ce livre, hein, bien sûr, bien sûr. Mais il y a aussi la construction d'un monde. Comme on l'entendait dire tout à l'heure, on peut construire dans le monde, on peut construire aussi dans le monde des lettres et dans le monde des mots, si on veut, un édifice ou une forme qui nous paraîtrait satisfaisante. Je pense que là, on fait l'expérience de laboratoire où dans le champ des mots, bâtir un peu d'harmonie, reconstruire quelque chose déjà à cet endroit-là, parvenir à une forme de satisfaction devant un objet, devant une nouveauté, une forme. Ça, c'est très important. Donc, en écrivant ce livre, j'étais en réparation aussi de quelque chose. Comme vous le soulignez, la question ce que le livre charrie de propos autour de la politique et de la vie des sociétés, de la verticalité des sociétés, etc. Bon, c'est des choses qui sont arrivées en route, mais enfin, j'avais envie de bâtir un monde, de construire un monde, quoi. Construire des mondes, pour moi, c'est ça, écrire, construire des mondes.
Et si on se quittait par une chanson ?
Oui. Une chanson que je chanterais ?
Ouais.
Je peux faire a cappella ou pas ?
Ouais, bah oui, super.
Eh bien, alors, c'est parti. Alors c'est parti. Il y avait un homme ce matin, sur le cul, Il y avait un homme ce matin, comme hier d'ailleurs, oui. Il y avait un homme ce matin, ainsi qu'une femme, oui, sur le cul. Il y avait 10 hommes ce matin, ainsi que 10 femmes sur le cul, comme hier d'ailleurs. Des enfants couraient mignons après les pigeons qui s'envolaient, comme hier d'ailleurs. Puis se reposait et s'envolait à nouveau. Puis se reposait à nouveau. Il y avait 100 hommes ce matin, ainsi que 110 femmes sur le cul. C'est rien de le dire. Sur le cul.
Ben merci Bertrand Belin. Merci pour tout. Merci pour Plantes carnivores, le nouveau roman qui sort aux éditions POL. Merci pour le nouvel album qui s'intitule Persona. Et merci pour cette tournée qui ne fait que commencer et qui va durer plusieurs mois. Donc, bonne chance.
Je vous remercie. Petit à petit, l'oiseau fait son bec. Arrive un matin, il a son bec. Son bec, et quand vient le soir, qui vient à coup sûr, il veut avoir dit quelque chose avec. A-t-il eu le temps seulement? Est-il un volcan dormant? A-t-il le temps seulement? Est-il un volcan dormant?
C'était Bec de Bertrand Belin. Bertrand Belin sera à l'Olympia pour un concert exceptionnel le jeudi 11 avril et toutes les dates de sa tournée sont visibles sur le site de L'Heure Bleue. Merci à Pauline Laverdure qui était à la technique ce soir. Merci à Jean-Baptiste Audibert, à Élodie Royer, Anne-Sophie Dazard et Antoine Joubert et à Lilian Allôme qui a réalisé cette émission.